Oh yes, bienvenue mardi, on est mardi le 20 avril, bienvenue en zone neutre, podcast matinal de sport maintenant, 100% sport. J'ai annoncé hier en fait que ça allait être à partir de jeudi sur l'édition vidéo si on veut, là, en tout cas l'édition hebdomadaire, ouais, c'est ça, c'est l'édition hebdomadaire. Donc, ce sera 100% sport et les épisodes audio aussi vont tourner autour du sport. Donc voilà pour aujourd'hui, une journée pluvieuse. Hier, beaucoup de choses dans le monde du sport. D'ailleurs, défaite du Canadien de Montréal et ça va pas très bien. On va s'en parler un petit peu. Défaite du Canadien, blessure de Carey Price. Carey Price blessé au cours de la première période, n'est pas revenu par la suite dans le match. On va en savoir un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce que la blessure de Carey Price est la solution du Canadien? J'en doute fortement. Malgré tout, ça demeure un gardien hyper efficace. Mais ça va pas bien là, du côté du Canadien. Heureusement pour le Canadien, les Sénateurs ont battu les Flames de Calgary hier soir. Donc, les Sens qui donnent un coup de main aux Canadiens parce que les Flames sont clairement dans la lutte avec le Canadien pour obtenir une place en série. On se rappelle que les quatre premières positions de chaque division passent en série et le Canadien se retrouve quatrième au moment où on se parle avec les Flames qui les pourchassent. Et les Flames sont en train de se tirer dans le pied parce que le Canadien ne gagne presque pas et les Flames ne réussissent pas à enligner des victoires. D'ailleurs, cette année, les deux pires équipes contre les Sénateurs d'Ottawa qui trônent dans le bas du classement dans la division canadienne, la division Nord, ben les deux pires équipes qui ont joué contre le Canadien et les Sénateurs, ben la pire équipe, c'est les Flames de Calgary. Donc, les Flames n'ont pas réussi à battre les Sénateurs. Les Canadiens n'ont pas battu les Sénateurs non plus. Donc, les Sénateurs sont en train de jouer les troubles fêtes dans la division Nord et on verra ce que ça va donner. Mais les Pesky Sens are back. Les Sens avaient fait ça il y a une couple d'années, étaient éliminés depuis belle lurette dans la saison et en deuxième moitié de saison, se sont mis à battre toutes les équipes qui pourchassaient une place en série. Fait qu'est-ce que les Sens vont faire la même chose cette année? À suivre, en espérant pas trop parce que, bon, étant un fan des Sénateurs et du Canadien, bien sûr, mais un fan des Sénateurs aussi, j'espère qu'ils vont tanker pour avoir le premier choix au repêchage, mais ça, l'avenir nous le dira. Donc défaite du Canadien contre les Flames hier. J'ai pas vu de gros flash dans ce match-là. Ça a pas été un grand. J'ai dit contre les Flames, mais c'est contre les Oilers en fait. Les Sénateurs ont battu les Flames. Connor McDavid s'est réveillé à un moment donné dans le match, dans la deuxième moitié du match et c'était terminé. Donc quand on parle d'un gars qui peut changer l'allure du match à lui tout seul, Connor McDavid est probablement le seul dans la Ligue nationale avec peut-être Alexander Ovechkin qui peut se parker sur le bord de la bande pour attendre une passe pour décocher un tir rapide. Sinon, je pense que McDavid est probablement le seul à pouvoir le faire. Mais il est plus tout seul. T'sais. Il y a Leon Draisaitl qui est avec lui, qui peut faire une pas pire job aussi. Donc, les Oilers cette année vont peut-être surprendre en série. Ça fait une éternité qu'on les attend avec tous ces premiers choix repêchage qu'ils ont eu dans le passé. Est-ce que c'est l'année des Oilers? Malheureusement pour les Oilers, c'est peut-être l'année des Maple Leafs en même temps. Donc là, un moment donné, il va falloir se séparer l'année. Là. possiblement que les Oilers devront attendre leur tour, mais les Maple Leafs ont habitué pas mal tout le monde à choquer, donc grosse possibilité que ça arrive encore une fois cette année, malgré que je vois pas comment, dans la division Nord, je vois pas qui peut les arrêter. Donc c'est probablement un billet direct vers le carré d'as de la Ligue. D'ailleurs, merci à tous ceux que, suite à notre épisode de hockey de la semaine passée, où est-ce qu'on était pas mal mêlés comme un jeu de cartes, comme on dit, au niveau de la structure puis de comment ça se passe dans les séries cette année. Je vais peut-être prendre un petit deux minutes pour le faire. La façon que ça fonctionne dans les séries, la première ronde des séries, c'est les quatre premières positions de chaque division. Donc, 1 contre 4, 2 contre 3. Et ensuite de ça, les deux gagnants vont dans la division de ces deux séries-là vont s'affronter à la suite de ça pour un autre 4-7. Les deux formations, la formation ayant récolté le plus de points étant, bon, favorisé au niveau du home team. Là. Donc, c'est ça. Et à la suite de ça, bon, on va se retrouver avec quatre gagnants de toutes les divisions possibles. Et ça va être encore un 1 contre 4, 2 contre 3 en fonction des points accumulés pendant la saison régulière. Donc, il va y avoir pour le carré d'as en troisième ronde, ça va être encore le gagnant de chacune des divisions, autrement dit. Sur un reclassement de 1, 2, 3, 4, 1 contre 4, 2 contre 3. Et ensuite de ça, ben, les deux gagnants vont s'affronter en finale de la Coupe Stanley. Et tout ce beau cheminement-là, ben, de là l'importance d'aller chercher des points en saison régulière parce que tout se passe avec les points de saison régulière. Donc, l'équipe qui va avoir accumulé le plus de points en saison va avoir l'avantage de la glace en finale de la Coupe Stanley. Donc, c'est un petit peu comme ça cette année, vu que les divisions ne sont pas séparées Est et Ouest. Donc, le Nord, tu vois, ça pourrait être une équipe de l'Ouest canadien. Donc, mettons, les Jets de Winnipeg pourraient se retrouver en finale de la Coupe Stanley contre, j'allais dire, les Sharks de San Jose, mais ça, c'est quasiment impossible que ça se passe. Mais une équipe de l'Ouest américain, par exemple, les Prédateurs de Nashville, qui sont plus dans la centrale, mais en tout cas, bon, il pourrait avoir deux équipes des anciennes divisions conférences Est et Ouest qui s'affrontent en finale de la Coupe Stanley, que ce soit deux équipes dans l'Ouest ou que ce soit deux équipes dans l'Est carrément. T'sais. Ça pourrait être Canadien-Boston en finale. Non, ça peut pas. Oui, ça pourrait être Canadien-Boston, en fait, en finale de la Coupe Stanley, ce qui n'est pas arrivé depuis qu'il y a des conférences Est et Ouest. Donc, voilà. Voilà, c'est dit. Sinon, dans le joli monde du sport, donnez-moi un instant, je me suis sorti des notes, là. Au niveau des résultats dans la Ligue nationale de hockey, il n'y a pas grand-chose à souligner hier. C'est ça. En fait, il n'y a pas grand-chose à souligner au niveau des pointages. Par contre, au niveau de l'actualité sportive dans la Ligue nationale de hockey, hier soir avait lieu le 1768e match de Patrick Marleau. Patrick Marleau qui devient, avec ce match-là, le joueur ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est tout un accomplissement, surtout dans l'ère où est-ce qu'il a joué. Autrement dit, il a joué dans une ère où ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de blessures, le hockey étant beaucoup plus physique, beaucoup plus demandant. L'entraînement à l'été aussi est beaucoup plus, de nos jours, est beaucoup plus demandante pour les athlètes. Et il y a des risques de blessures incroyables. Donc, le fait qu'il ait disputé 1768 matchs, c'est incroyable. À un certain moment donné, il en a aligné je ne sais pas combien. Je vais peut-être sortir la stats pour le podcast de demain, mais il en a aligné quelques-uns là, et ça en faisait de lui l'homme de fer de la Ligue nationale. Donc, tout un accomplissement. La plupart de ces matchs-là ont été disputés en plus avec les Sharks de San Jose. Donc, il a fait un petit passage à Toronto, mais il est revenu avec les Sharks et je ne sais pas si ça va être sa dernière saison parce que malgré le fait qu'il a ralenti un peu. Puis ça c'est quelque chose qui est assez particulier de Patrick Marleau, c'est que pourquoi il a toffé aussi longtemps que ça dans la Ligue nationale, c'est que c'est un bon patineur. C'est probablement un des meilleurs patineurs, peut-être pas en vitesse pure, mais tu sais, au niveau de l'agilité sur patin, le départ explosif, tout ça, c'est un joueur qui peut encore se tirer son épingle du jeu dans cette Ligue nationale qui est rendue hyper rapide, hyper jeune. Ben oui, il a perdu de la vitesse, mais le fait qu'il était au-dessus de la moyenne dans ces caractéristiques-là, disons-le comme ça, bien, ça fait qu'aujourd'hui, en 2021, malgré qu'il est vieillissant puis malgré que la Ligue nationale est de plus en plus rapide, bien, lui, il devient un joueur moyen, on va s'entendre. C'est plus une superstar, c'est plus quelqu'un qui ramasse 80 points par année. Par contre, il est encore capable de jouer quand même parce qu'il a cette agilité et cette rapidité-là qui, malgré le fait qu'il ait diminué un peu, il est encore au-dessus. Il est encore bien meilleur que les joueurs de la Ligue américaine. Donc, les Sharks, en ayant Patrick Marleau dans leur alignement, oui, les Sharks sont à chier, on va se le dire. C'est pas une grosse équipe. Mais malgré le fait que Patrick Marleau soit dans l'alignement, c'est pas la cause que les Sharks sont moins dominants. Donc, il est encore capable de jouer. C'est autrement dit, là, pour le dire de cette façon-là, c'est comme ça. Baseball hier, les Blue Jays avaient un congé, donc les Blue Jays ne jouaient pas hier soir. Ça va leur faire du bien parce que bon, là, ça a été une série assez difficile contre les Royals de Kansas City. Personnellement, je m'attendais que les Blue Jays allaient au moins s'en sortir avec une fiche de 500 contre les Royals, ou plutôt gagner la série. En fait, c'est l'inverse qui est arrivé. On a gagné un seul match dans cette série-là. Et le manque de profondeur au monticule pour les lanceurs partants commence à se faire sentir. Quand c'est pas Ryu ou Matz qui lance, et Matz, c'est une surprise, là. Steven Matz, l'ancien des Mets, c'est carrément une surprise. Donc, pas une surprise parce que ça a toujours été un bon lanceur, mais tu sais, une surprise dans le sens que les Mets ont démissionné avec lui, il y a eu des blessures, tout ça. Là, il signe un contrat avec les Blue Jays et fiche de 3-0 pour commencer la saison. Donc, trois belles victoires qu'il donne aux Blue Jays. Donc, si c'est pas de lui et ses trois victoires, on peut se questionner. Là. Les Blue Jays ont un seul partant qui fait la job si on enlève Ryu. Ben, si on enlève Matz, en fait, pour garder Ryu. Donc, Ryu, Matz font la job. Après ça, la blessure à Nate Pearson commence à se faire sentir. Nate Pearson que on en met beaucoup sur ses épaules comme étant probablement le futur lanceur numéro un de cette rotation-là. Donc, ça, c'est beaucoup de pression envers lui. Mais il est en voie d'un retour au jeu. Ben, à son retour au jeu, il va se retrouver facilement troisième partant des Blue Jays derrière Ryu et Matz. Donc, à suivre du côté des Blue Jays. Vladimir frappe bien. Les bâtons sont là. Quelques matchs où ça a été plus difficile. Mais il ne faut jamais mettre de côté l'aspect qui t'affronte comme lanceur. Quand tu affrontes des bons lanceurs, c'est normal que les matchs soient un petit peu plus à bas pointage, donc les moyennes diminuent, les retraits au bâton, c'est sûr, augmentent. Ça fait partie du baseball. Les bons lanceurs vont trouver un moyen de freiner les grosses attaques, comme par exemple les Blue Jays qui ont une solide attaque, et les Yankees qui ont la pire fiche de la Ligue américaine en ce moment, alors que beaucoup de monde voyait les Yankees en finale de la Série mondiale. Donc oui, c'est le mal, la saison est encore super jeune, puis on aura la chance d'en discuter avec les gars de Passion MLB jeudi lors du podcast hebdomadaire. J'ai bien hâte de leur jaser de ça. Les Yankees, déception. Les Red Sox, surprise. Est-ce que tout ce beau monde-là va se retrouver au milieu de la section de la division Est de l'Américaine à un certain moment donné, ce qui va faire que les matchs vont être pas mal captivants. Là. Cet été, manquez pas les matchs de l'Est de l'Américaine. Blue Jays, Rays, Yankees et Red Sox. Là, on a une lutte à 4 équipes sur 5 dans cette division-là. Les Orioles de Baltimore qui jouent quand même du bon baseball en début de saison, malgré le fait qu'on les attend pas du tout. C'est pas pour cette année, c'est pour dans quelques années. Eux autres, ils enlignent les choix au repêchage, puis cette division-là va être assez intense dans les prochaines années. Et espérons que ces fameux Rays de Tampa Bay qui font partie de cette division-là se retrouvent à Montréal pour pouvoir les voir live à Montréal. C'est beau match-up, là. Donc, à suivre, mais c'est ça. Les Blue Jays étaient en congé hier. Ça va leur faire du bien, un petit congé bien mérité. Sinon, dans les actualités au niveau du football, on a Alex Smith qui annonce sa retraite après 14 saisons. Alex Smith, c'est le plus beau retour dans la NFL l'année passée. Le gars a eu la maladie mangeuse de chair. Donc, il y a eu, biologiquement parlant, des troubles de santé, et le gars est revenu pour prendre son poste de QB avec son équipe, puis faire du solide travail, en fait. Et pour moi, c'est une surprise de le voir se retirer, quoique probablement que physiquement, ça a été probablement plus difficile qu'il pensait encore, là, de jouer une saison l'année passée. Mais 14 saisons pour un gars, tu sais, pour un gars qui a été repêché, lui, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pas les stats devant moi, fait que peut-être que je me trompe, là, mais si ma mémoire est bonne, qui a été repêché pas très loin, avant Aaron Rodgers, en fait, avec les Packers de Green Bay, qui a disputé 14 saisons un peu dans l'ombre parce que il a pas été à l'avant-plan nécessairement pendant sa carrière. Il a été plus dans les dernières années parce qu'on se souviendra, avait fait du bon travail pour les Chiefs de Kansas City. Puis c'est là qu'il avait relancé un petit peu sa carrière, si on veut. Il avait sorti de l'ombre, en fait. Mais sinon, c'est un gars qui a roulé sa bosse dans NFL sans trop faire de vagues. On entendait plus ou moins parler et tout. Donc moi, ma surprise de voir... ma surprise, c'est pas qu'il se retire, c'est qu'il a joué 14 saisons, en fait. Ça, c'est surprenant pour moi parce qu'on n'entendait pas trop parler de ce gars-là. Donc, une belle carrière, une belle retraite bien méritée. Va te reposer, mon Alex. Je pense que t'as prouvé à tout le monde que t'étais un guerrier, un battant en revenant l'année passée. Maintenant, va te reposer, passe du temps avec ta famille, puis c'est ça. Hein? Enjoy la vie parce que lui, il a passé proche. Il a passé vraiment proche de nous quitter. Puis je pense que s'il peut... enjoyer la vie, là, let's go for it. Sinon, dans la Ligue nationale, la Ligue nationale a annoncé les trois étoiles de la semaine cette semaine. Et la première étoile de la semaine, quelle ne fut pas ma belle surprise de voir Dustin Tokarski, l'ancien gardien du Canadien de Montréal, qui a été là assez brève, une présence assez brève. Et je vais toujours me souvenir d'un fait de Dustin Tokarski, c'est qu'au camp d'entraînement, il montrait les tests physiques des équipes. Les tests physiques du Canadien. Donc là, tu sais, ceux qui courent sur le tapis roulant avec le truc de VO2 max dans la face, l'espèce de masque. Ensuite, ils montraient, tu sais, quand ils sautent sur place pour aller toucher le plus haut possible, les push-ups, puis toute la kit. Et à un moment donné, il faisait un reportage, je pense que c'était à RDS ou à TVA Sports, je ne me souviens plus, et on voyait Piqué Subban parce que tout le monde disait « Oh, Piqué Subban est en forme plus que jamais, il a pris de la masse musculaire, puis là, il se pavanait pas de t-shirt dans le centre d'entraînement, puis tout ça. » Et en arrière, on a vu passer Dustin Tokarski avec, ma foi du bon Dieu, des bourrelets. OK? on entendait, par exemple, dire, je pense que c'était le directeur du développement des joueurs ou le thérapeute sportif là, ou le gars en charge des programmes d'entraînement, dire que Piqué était plus en forme que jamais, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Et en arrière-plan, pendant ce temps-là, on voyait passer Dustin Tokarski avec quelques petits bourrelets, donc pas tellement en forme. Et cette saison-là, si je me rappelle bien, ça a été la saison où est-ce qu'on s'attendait qu'il pourrait relever le défi d'être le second de Carey Price à ce moment-là. Puis ça n'a pas été le cas. Ça a été vraiment sa descente aux enfers, a été cédé dans la Ligue américaine, n'est plus jamais vraiment revenu avec le Canadien. Et après ça, il est allé faire un petit parcours, son chemin de croix, en fait, dans la Ligue américaine pour finalement revenir cette année. Et bon, présentement, première étoile de la semaine, ça va super bien dans son cas. Fait que je pense que il a pris un pas de recul pour en faire deux de l'avant. Félicitations, Dustin Tokarski. C'est le moindre qu'on puisse dire. Donc, voilà. Ça va être tout pour ce matin. Et je vous invite à écouter le podcast hebdomadaire en zone neutre à 18h jeudi. On va recevoir les gars de Passion MLB. On va recevoir Renaud Bourbonnais de Attitude Football. Et quelques surprises au travers de ça. On va un petit peu lancer la nouvelle mouture du podcast 100% sport avec mes collaborateurs. On va annoncer d'autres collaborateurs aussi. On va jaser de sport tout au long de l'émission. Donc, soyez là 18h jeudi sur Facebook, YouTube et Twitch. Je vous attends là et d'ici là, passez une super belle journée. Ciao!